lui poser les chiffres. Mmh. Quelle est la particularité, Mayotte, concernant cette maladie?
Donc, pour être franc, je vais me baser sur les 3 derniers jours et les visites qui ont été faites à domicile. Mmh. Donc, sur les patients que j'ai vus sur ces 3 derniers jours. Mmh. D'accord. Donc, sur mon expérience. Lors de cette expérience, nous avons vu 14 patients. Mmh. Sur ces 14 patients, il y avait 12 patients qui étaient atteints de la maladie d'Alzheimer, soit 85, un peu plus de 85%, on va dire. Mmh. Donc, ce qui est... Et en plus, ils étaient atteints à un stade évolué de la maladie.
D'accord.
Donc, si je dois retirer une tendance de ces visites que nous avons effectuées, mmh. c'est qu'effectivement, le stade de diagnostic de la maladie, enfin, la maladie a beaucoup évolué et touche pas mal de monde. On a observé une deuxième tendance qui est la prévalence du vasculaire. Des comorbidités, c'est-à-dire du vasculaire. Il y a la plupart des patients, voire 100% des patients, étaient atteints d'une pathologie vasculaire associée. Hypertension artérielle, cholestérol, diabète, qui sont des facteurs qui vont un peu révéler la maladie, mm-hmm. l'accentuer, la polariser même. Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai pu observer sur les... Il y a également une représentation de la maladie qui est un peu tabou. Avec un certain sentiment de honte.
Tout à fait.
À ce que d'autres personnes sachent mm-hmm. Qu'au sein de la famille, il y a quelqu'un qui est atteint de cette maladie. Mm-hmm. Ça, c'est pour le constat.
C'est la particularité mahoraise. C'est-à-dire qu'ici, la particularité mahoraise veut que nos malades, on les accompagne, on les garde près de nous. Connaissant ce genre de maladie, c'est assez difficile de la mettre en avant à ce que la population puisse savoir ou les proches puissent savoir que un membre de notre famille est atteint de cette maladie.
Moi, je dirais au contraire, en fait, comme justement ici à Mayotte, la prise en charge est essentiellement communautaire, familiale, mmh, mmh. qu'il n'y a pas, comme on trouve en métropole ou ailleurs, des institutions, mmh. des maisons de retraite. Ici, ça n'existe pas. La prise en charge reposant sur les familles, il est justement impératif mmh. que les familles puissent confier à d'autres leurs difficultés, mmh. partager ces difficultés, s'apercevoir que la voisine ou la cousine rencontre les mêmes difficultés. Mmh. Et sur le plan psychologique, c'est vraiment un allègement du fardeau. Mmh. On parle souvent du fardeau de l'aidant. Ça
Tout
dit bien
fait.
Ce que ça veut dire. C'est un poids. Mmh. Et ce poids, il est plus léger quand on le partage, quand on en parle, mmh. parce que dans ce cas-là, on peut partager des bonnes idées, des astuces pour faciliter la vie quotidienne. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un point important de s'en ouvrir aux autres, même, et ne plus penser que cette maladie est une honte ou une punition ou que sais-je. Mmh. C'est une maladie, c'est une pathologie dont on n'est pas responsable. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Mayotte a une population extrêmement jeune. Mmh. Vous parliez tout à l'heure de chiffres qui concernent la métropole et on n'a pas les mêmes chiffres ici à Mayotte. Mmh. Mais, on sait que la population, ici comme ailleurs, va vieillir. C'est un phénomène mondial, le
tout
vieillissement,
à fait. Mmh.
Et que la maladie d'Alzheimer est une pathologie liée au vieillissement. Autrement dit, tous les jeunes qui aujourd'hui naissent ou arrivent à Mayotte vont pour la plupart d'entre eux vieillir à Mayotte. Mmh. Et dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va se trouver confronté à un phénomène d'explosion, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais d'explosion du nombre de malades liés au vieillissement et liés aussi à des modes de vie qui ne sont pas toujours faciles à Mayotte et qui favorisent le développement de telles maladies. Donc, en parler aujourd'hui, mm-hmm. c'est anticiper les complications, c'est prévenir la dépendance, c'est donner plus de chances en termes d'autonomie aux personnes âgées ou aux futures personnes âgées et plus de soutien, d'aide et de qualité de vie pour les familles.
Et d'accompagnement.
Et d'accompagnement, bien entendu.
Merci beaucoup, Madame Séverine Deneul, d'avoir répondu à cette question. Nous avons conscience qu'à Mayotte, il y a une grosse ignorance concernant cette maladie qui est assimilée plus ou moins à la folie. Comment les familles font justement pour vivre avec? Comment les familles pourront venir au-devant de vous, les accompagnateurs, les aidants, mais aussi les organismes en charge de cette maladie pour pouvoir justement y pallier? Qui veut me répondre?
C'est surtout qu'il y a un gros travail de communication à faire mmh. Sur cette maladie pour... Parce qu'on a eu, la même chose, on a traversé la même chose. Et encore maintenant, on a des patients qui arrivent en consultation en métropole après avoir aussi été cachés par leur famille parce que c'est encore aussi chez nous parfois assimilé à de la folie. Donc, il y a un travail de communication. Il faut en effet expliquer aux gens que ce n'est pas une maladie psychiatrique, que quand on arrive à un stade où il y a des troubles du comportement, c'est un stade déjà évolué. Que la maladie certainement évolue depuis peut-être 10 ou 15 ans et qu'on peut avoir une vie tout à fait normale quand on est diagnostiqué très tôt. On a des patients qui travaillent, qui sont en activité professionnelle. Donc le fait de voir cette maladie autrement qu'à des stades évolués comme celui-ci, ça permet de dédiaboliser et de voir que voilà, les gens vivent normalement pendant des années et des années. Donc il y a aussi à communiquer sur la maladie pour pas qu'on la voie comme après 15, 20 ans d'évolution.
Mais de quelle manière pourront-on communiquer pour justement pallier à ce côté diabolique que nous mettons en avant?
Communiquer, comment?
Je voulais dire, communiquer, c'est par des groupes de parole, aussi des formations des aidants, parce que lorsqu'on a commencé, on a réuni quand même 4 à 6 familles, c'est-à-dire les aidants familiaux. Quand je dis les aidants familiaux, ce sont les familles très proches, c'est-à-dire le fils ou la fille de malade. Donc là, en apprenant des choses petit à petit, parce qu'on ignore ce que c'est la maladie d'Alzheimer, et quand on est dans le groupe de parole, on arrive à faire sortir ce qu'on a, et on entend ou on écoute bien ce que les autres ont déjà subi aussi. Donc là, ça pèse déjà au niveau de morale envers les dents. Et aussi, on trouve aussi autre manière de vivre avec le malade.
D'accord. Merci beaucoup pour ces réponses. Le aidant, quelle est la place de le aidant et comment vous l'accompagnez? Le aidant aussi a une souffrance, a une part de souffrance. Est-ce qu'on peut le dire?
On peut le dire, il faut le dire, c'est évident. Et les dents, en fait, se fatiguent souvent, s'épuisent en accompagnant une personne malade. Et il est important que des associations, des professionnels puissent venir en soutien à ces aidants. C'est ce qu'on appelle l'aide aux aidants. Parce que s'ils s'épuisent et qu'il n'est plus en mesure d'assurer l'accompagnement de la personne malade, ça devient très compliqué.
C'est-à-dire ?
Donc, ça devient très compliqué pour la personne malade qui a perdu son autonomie, si son fils, son enfant ou son conjoint est lui-même extrêmement fatigué et ne peut plus s'en occuper. Donc on en revient toujours à ce point d'essayer de repérer et de diagnostiquer le plus tôt possible, de façon à prendre le temps d'en parler avec la famille, avec la personne malade elle-même qui, à ce stade, est en mesure de comprendre les choses, de préparer la famille à l'évolution qui risque d'arriver et de trouver avec elle les meilleurs moyens d'organiser la vie quotidienne à un moment où on n'est pas encore en situation de crise, on n'est pas encore en situation d'urgence parce que la maladie est à un stade débutant et qu'on va pouvoir préparer, j'allais dire tranquillement, l'avenir.
D'accord. Y a-t-il une manière, une forme, une méthode pour pouvoir prévenir avant que la maladie s'installe complètement?
C'est-à-dire pour pouvoir
C'est-à-dire faire de la prévention. Voilà, c'est vraiment faire de la prévention bien avant, d'une manière d'accompagner un peu les aidants ou...
Alors, c'est une maladie qui n'est pas curable, on le sait bien, la maladie d'Alzheimer. Cependant, il y a ce qu'on appelle des facteurs protecteurs et des facteurs de risque du développement de ce type de maladie. Je passe la parole à un neuropsychologue sur ce point, sur les facteurs protecteurs.
Les facteurs de risque. Les facteurs de risque, ce sont les facteurs dont nous avons un peu parlé. On a commencé à en parler tout à l'heure en parlant des facteurs de risque cardiovasculaires qui vont fragiliser un peu le cerveau. Et de ce fait, en fragilisant le cerveau, on peut créer certaines choses au niveau neuronal, comme des accidents vasculaires. Qu'ils soient ischémiques transitoires, c'est-à-dire qu'ils soient juste transitoires ou qu'ils soient avérés et qu'ils restent dans le temps. Et ça, comme je vous l'ai dit, ça va jouer un rôle de révélateur et de un rôle polarisant également. C'est-à-dire que ça va accentuer la symptomatologie. Donc du coup, le vasculaire, il y a différentes façons de pouvoir contenir ce facteur. Hein. C'est-à-dire ça passe par la nutrition, ça passe par une bonne hygiène de vie, ce que disait tout à l'heure Séverine. Ça passe également par le fait d'avoir des activités sportives pour favoriser la bonne vascularisation, surtout lorsqu'on sait qu'on est potentiellement à risque de développer ce genre de choses, parce que dans la famille, il y a déjà eu plusieurs,
tout à fait.
Plusieurs AVC.
On peut même faire de la prévention sur le long terme, c'est-à-dire que on sait aujourd'hui que un enfant qui aura développé ses facultés intellectuelles de manière stimulante, qui aura eu des stimulations artistiques, émotionnelles, intellectuelles positives, cet enfant-là, lorsqu'il sera devenu adulte, il sera capable de puiser dans ses ressources pour affronter les difficultés de la vie, quelle qu'elle soit, et notamment pour se prémunir contre les maladies neurodégénératives. Ça a été validé scientifiquement, ce que je suis en train de dire. Et c'est très intéressant de savoir qu'en termes de prévention, on peut maintenant raisonner sur le cycle de la vie et que la vieillesse se prépare dès l'enfance.
Merci. Est-ce que cette maladie est héréditaire ?
Dans certaines formes, oui.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que lorsque... Mais ça reste cependant rare. Hein, ça reste cependant... Mais... Dans certaines formes, vous avez le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Et donc, dans ce cas, cela signifie qu'il y a un gène qui code pour la maladie.
Moi, j'ai ma grand-mère qui l'a eu, par exemple. C'est un exemple. Hein. Mais j'ai ma grand-mère qui l'a eu.
Ça ne
après,
signifie pas.
Après, il y a mon
pas.
Père. Est-ce que...
Est-ce que toi ?
Voilà. Est-ce que moi, je suis susceptible de pouvoir...
T'as peur ?
Non, c'est, je pose la question.
Mais on a le droit d'avoir peur.
Non, ça ne signifie pas obligatoirement que vous avez développé une maladie d'Alzheimer. De même que des patients qui sont atteints de maladie d'Alzheimer dans les formes classiques dont je vous ai parlé n'ont pas forcément des parents qui ont eu la maladie d'Alzheimer. Mais il existe effectivement une forme un peu plus génétique qui atteint les patients à des âges beaucoup plus jeunes, mais qui ne s'exprime pas forcément de la manière classique par des troubles de mémoire. Ça peut commencer par des troubles visio-spatiaux. C'est-à-dire le jugement de l'espace, des distances, ce genre de choses-là, et d'autres symptomatologies. Donc c'est vraiment très très spécifique.